Vous connaissez Butagaz, les bonbonnes de gaz, l'ours bleu, la marque. Depuis ces 3 dernières années, Butagaz s'est diversifié pour devenir un fournisseur multi-énergie, au même titre qu'EDF et Engie. Maintenant, Butagaz vend aussi des copeaux, des granulés de bois, pour les poêles et les chaudières. Aujourd'hui, je reçois David Montserrand qui a lancé cette nouvelle activité. Bienvenue sur Oser puis d'oser, le podcast qui raconte les histoires d'entrepreneurs qui ont créé de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Deban, cofondateur de Tango Start, société de conseil en innovation et l'hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous allons découvrir une boîte, un cas, un invité. Et aujourd'hui, je reçois David Montserrand de Butagaz. Bonjour David.
Bonjour Franck.
Comment ça va ?
Impeccable.
Impeccable, ok. Donc, sur cette transition multi-énergie qu'a fait Butagaz, toi, tu t'es occupé des granulés de bois.
Granulés de bois, exactement. Okay. Voilà. On s'inscrit bien dans la stratégie de diversification qui a été lancée il y a 5-6 ans par le président de Butagaz. Et en même temps que lancer le gaz naturel, l'électricité sur le marché domestique, il a été décidé de lancer aussi une activité de distribution de granulés de bois sur la France entière. Voilà, une énergie renouvelable, une nouvelle énergie montante avec en forte croissance qui permet de se chauffer facilement avec des appareils qu'on pose assez simplement, que ce soit des poêles à granulés ou des chaudières à granulés.
D'accord. Donc cette nouvelle énergie, c'est quelque chose qui existe déjà. Les foyers sont déjà équipés.
Oui, on en voit en France depuis une bonne dizaine d'années. Ça a commencé aux États-Unis bien avant. Depuis 10-12 ans, là, on en voit de plus en plus installés dans les foyers. Mais depuis 4-5 ans, il y a une forte croissance. On entend beaucoup parler en ce moment avec la période de conversion des chaudières fuel. On voit beaucoup d'articles et de reportages sur cette nouvelle énergie. Voilà, ça grossit de 10-12% par an. Mm. C'est une énergie vraiment sympa, puisque ça crée une belle flamme dans le foyer. C'est économique c'est confortable.
Ouais, ouais. Tu me disais pour lancer cette nouvelle activité, c'était pas une idée que tu as eue toi, mais c'est un mandat, une demande que le management a fait et que tu as un poste, une responsabilité que tu as pris. Tu peux me raconter comment ça s'est passé ce tout début, le fait de te choisir toi et pourquoi cette activité?
Oui, en effet, donc ça faisait partie des pistes de réflexion de l'entreprise, cette diversification. On a examiné un certain nombre de nouvelles énergies à proposer au public. Comme je l'ai dit, comme c'est une énergie en forte croissance, une énergie renouvelable, c'est très intéressant de pouvoir investir et s'investir dans cette énergie-là. Donc il était question effectivement de lancer cette nouvelle activité en 2017. Personnellement, moi, je m'occupais de l'accélérateur de start-up qui s'appelle Zagatube, qui était vraiment... qui a initié la démarche d'open innovation de l'entreprise. Depuis 2014, je m'occupais de cet accélérateur-là. J'ai pu côtoyer de nombreux entrepreneurs, des start-upers qui ont lancé leur activité. J'ai essayé au sein de l'entreprise d'apporter une nouvelle démarche de travail, d'innovation, en allant chercher des idées à droite, à gauche, à l'extérieur de l'entreprise. Et puis de dynamiser cet esprit, d'apporter cet esprit d'initiative auprès des collaborateurs. Donc, effectivement, le comité de direction a pu voir. J'aimais bien un peu lancer des activités lancer de nouvelles démarches. Naturellement, je pense, m'ont proposé de lancer cette nouvelle business unit au sein de l'entreprise.
D'accord.
Voilà. Donc, j'ai pas hésité très longtemps pour lancer, malgré les risques qu'on pouvait y avoir. Hein. On partait de zéro, on partait de rien.
Ouais.
Et avec un challenge supplémentaire sur un timing assez serré pour pouvoir arriver sur le marché. Ça s'est fait en 6 mois. Ouais. Le temps de de dire oui et puis de lancer les premiers granulés de bois sur le marché.
Donc en 2017, le management te dit, tiens David, on voudrait faire lancer ces initiatives, est-ce que tu peux t'en occuper?
Voilà.
Et 6 mois après, vous livrez des... D'accord, c'est rapide.
C'est rapide, oui, tout à fait.
Ouais, ouais.
Alors, la décision était prise, il fallait avoir quand même un petit peu de temps pour proposer une offre satisfaisante, mettre en place toute une supply chain, c'est vraiment un métier très, très logistique. Un site internet, qui n'est pas le moindre, puisque sans site internet, on ne peut pas vendre. Hein, donc, puisqu'on a décidé de lancer tout de suite la commercialisation via un site de e-commerce.
Qui s'appelle
Granulé de bois, granulébois.butagaz.fr.
D'accord.
Voilà, donc ce n'est pas une mince affaire de créer un site e-commerce à partir de rien. C'était le premier site e-commerce de Butagaz. Proposer un site qui fonctionne avec des solutions de paiement intégrées et puis ensuite une prise en charge des commandes par un service client qu'il a fallu monter également pendant l'été et puis trouver du produit et puis trouver un moyen de livrer à domicile.
Ouais, parce que c'est un métier complètement différent en fait.
Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait pour le gaz en citerne puisqu'on va livrer de l'énergie chez les gens.
Ouais.
Par contre, là, la livraison à domicile, c'est une tonne de granulés qu'on vient installer dans le garage.
D'accord.
Donc là, on a besoin d'avoir accès au garage des clients ou enfin, au moins une porte ouverte pour pouvoir rentrer. Ouais. Et donc là, c'est présence obligatoire du client. Donc une planification logistique plus compliquée. Après, le système logistique... Je vais chercher chez un producteur, je stocke ça dans des dépôts locaux et j'organise les camions. Ça ressemble un petit peu à une activité qu'on connaît.
D'accord, ok. Et par rapport à l'activité justement que vous connaissez, à la nouvelle, il y a eu quoi ? Est-ce qu'il y a eu énormément à faire en plus ou alors le site e-commerce par exemple, c'était nouveau ?
Ah oui.
La logistique, c'est pas les mêmes camions, c'est pas alors les voilà. mêmes...
C'est vrai que sur le principe, ça ressemble. Hein.
Oui.
Ça reste des rendez-vous à mettre ça sur une feuille ou sur un logiciel adapté. La complexité, c'est qu'effectivement, on n'a pas pu utiliser les mêmes ressources que pour les métiers historiques, puisqu'on ne peut pas mélanger les combustibles, du bois avec du gaz, ce n'est pas forcément ce qui est autorisé de faire. Donc, on n'a pas pu utiliser les mêmes sites de stockage, les mêmes camions. Donc, il a fallu trouver une supply chain bien spécifique. Et puis les producteurs de granulés de bois ne sont pas des gens à qui on parlait auparavant. Voilà, c'est ouais. une nouvelle filière à découvrir.
Oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Vous n'aviez pas comme fournisseur du tout. D'accord.
Non, du tout.
Quelles étaient les étapes les plus compliquées dans le développement de cette activité ?
Je pense qu'il ne fallait pas se tromper sur l'offre au départ, puisque le but quand même c'est de vendre... Et de convaincre des futurs clients. Et connaissant pas très bien en 2017 quel type de clients, quel type de personnes utilisent préférentiellement les granulés, on a dû faire quelques enquêtes au préalable pour écouter les clients sur ce qu'ils attendaient du produit, ce qu'ils attendaient d'un nouveau distributeur, ce qui leur plaisait dans l'énergie et ce qu'ils voulaient absolument retrouver dans une nouvelle offre. Donc là, on a eu très très peu de temps, on a condensé ces études et il ne fallait pas se tromper sur finalement l'offre finale. Et on a opté pour une solution plutôt premium, facile à commander et avec en apportant les facilités possibles de paiement, de créneaux de livraison, etc.
D'accord.
Et en privilégiant aussi la qualité. Et donc ça a été une étape où on avait peu de temps pour réaliser cette enquête et bâtir l'offre.
Vous avez parlé à combien de personnes pour construire ?
Très peu, une cinquantaine de personnes.
Hein. Ouais.
Donc il a fallu les réunir et puis leur poser les bonnes questions, faire la synthèse.
Ouais.
Et ensuite, l'offre, elle est déclinée sur le site internet, elle est déclinée sur les packaging, sur le sac.
Bien sûr.
Et là, c'est pareil, on a des délais incompressibles pour créer un site, faire imprimer les sacs. Donc on a... On a bien travaillé en pleine période estivale en plus.
Juillet-août, vous avez fait ces 50 interviews.
Un petit peu avant, on a fait les interviews en mai-juin. On a finalisé les offres fin juin. Et le site internet à partir de juillet, juillet-août, voilà, création d'un site e-commerce en 2 mois, clé en main.
Ouais, voilà. Ouais. Et on parlait justement des différences entre ce que fait Butagaz maintenant et ce que vous faites maintenant. Pour faire ce site e-commerce, vous aviez les compétences en interne ou vous avez été chercher ça en externe?
Il a fallu aller chercher en externe et s'appuyer sur des partenaires, hein, voilà, qui nous ont bien aidés, bien compris notre besoin. On est bien tombé quand même à ce moment-là. Un bon partenaire qui a su, à partir de très peu de données, hein, on n'a pas eu beaucoup de temps de faire un cahier des charges très très détaillé sur ce qu'on attendait, mais beaucoup en interview, a bien compris ce qu'on attendait et a pu développer le site. Et on a fait vraiment la méthode agile, je développe un petit peu, je teste, je développe un petit peu, je teste. Et voilà, malgré cette période de vacances, on a bien bien travaillé. Donc forcément, on avait un site avec peu de fonctionnalités, mais qui fonctionnait quand même, voilà, qui faisait le job. Quoi.
Suffisamment pour prendre les premières commandes. Et, voilà. Ouais, tout à fait. Okay. Okay. Et donc, site fonctionne, trouver les fournisseurs, c'était pas un problème aussi, si vous avez fait ça en parallèle, j'imagine.
Oui, en parallèle. Alors, on était que deux à travailler à temps plein sur le sujet pendant ces mois-là. Mais heureusement, j'ai pu travailler avec des ressources complémentaires, d'autres équipes qui ont pu donner un petit coup de main pour aller plus vite. Hein, et donc la logistique, bah, c'est un collègue qui a essayé de trouver des bons transporteurs, voilà, en piochant un peu dans nos partenaires historiques, voir un petit peu s'il y avait aussi à côté de nouveaux transporteurs qui pouvaient faire le job. Les fournisseurs, mais pareil, on a délégué un petit peu les tâches pour démultiplier un peu. Mais toujours avec à l'esprit cette rapidité qu'il fallait avoir. C'est beaucoup d'échanges et de décisions à prendre très rapidement. Oui,
ouais, c'est sympa, les collègues qui sont venus donner un coup de main entre deux semaines de vacances.
Oui, c'était appréciable.
C'est appréciable, ouais. Et surtout que c'est pas évident dans beaucoup d'entreprises, chacun reste focalisé un peu sur sa fonction. Et quand on arrive avec un nouveau projet, des fois on est un peu mis de côté en disant tu nous embêtes, c'est pas ma priorité.
Oui. Là, c'est vrai qu'on a, globalement, chez Butagaz, il n'y a pas beaucoup de freins de ce genre-là auprès des collègues. Enfin, quand on lance des nouvelles activités, de nouveaux projets, il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension, l'envie d'aider. C'est vraiment appréciable de pouvoir compter sur les collègues. Bien sûr, il ne faut pas les surcharger. Il faut aménager aussi un peu ce qu'on peut leur demander. Hein.
Ouais.
Voilà, on est dans une dynamique où on sait qu'il faut se diversifier, qu'il faut tenter plein de trucs, et tout le monde est très moteur pour ça, quoi.
Ouais. Mais c'est sympa.
C'est bien.
Et tu disais donc un premier challenge, définir l'offre en fait. Avec les retours clients, ok. Après, construire, mettre tout en place pour pouvoir rendre l'offre suffisamment concrète pour que les gens puissent l'acheter, et puis la supply chain derrière. Est-ce que t'as servi toute la France dès le premier jour, ou t'as commencé par une zone, ou comment vous êtes pris?
On s'est posé la question, en effet, et puis c'était aussi pas mal lié aux transporteurs qu'on pouvait trouver, enfin la supply chain, hein, est-ce qu'elle était complète sur toute la France tout de suite. Et on a eu quelques surfroides, on partait en divisant la France en deux avec différents partenaires. Puis quelques semaines avant de lancer, un des partenaires fait défaut. On se retrouve avec finalement, on va pouvoir distribuer sur une moitié de France. Notre partenaire qui restait a bien voulu aussi démultiplier son réseau pour nous permettre de distribuer France entière. Donc le choix a été fait effectivement de lancer sur toute la France en B2C d'abord, et ensuite développer un canal des canaux B2B quelques mois après.
D'accord, que vous avez fait après, d'accord.
Voilà, okay. On a d'abord focalisé sur le B2C.
C'était important de lancer sur toute la France dès le début?
C'était important en termes de communication aussi, pour dire, les granulés de Bob arrivent, c'est le nom de notre produit. Les granulés de Bob, le nom de Bob, de l'ours bleu. Les granulés de Bob, ils arrivent, ils sont disponibles. C'était difficile pour une marque comme la nôtre de dire ils sont d'abord dans tel département, etc. On a dit, bon, allez, on tente. Voilà.
D'accord.
Et puis, on savait, on arrivait aussi, on a lancé donc, le mois d'octobre. On est un peu au milieu de la saison pour les granulés, parce que les granulés, on commence à les vendre beaucoup dès le mois de juin.
D'accord.
Voilà. Donc, on arrive un petit peu au milieu de saison. Vraiment, on a lancé l'hiver pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà. On n'était pas non plus, on s'était pas mis une grosse pression sur les résultats. Et donc, on voulait voir ce que ça donnait déjà. Bon, il fallait avoir le produit là aux bons endroits, etc. Mais une fois que logistiquement, on était OK, fallait lancer partout.
Ouais. Et pour la communication, vous avez réutilisé des choses que vous aviez chez Butagaz. Vous avez fait quelque chose complètement différent parce que ce n'est pas forcément les mêmes clients, j'imagine.
Ce n'est pas forcément les mêmes clients. On a dû apprendre aussi à faire de l'acquisition digitale. Hein, donc, c'est un nouveau métier et qui est maintenant... passer vraiment, comme on lance de nouveaux business, là on a lancé le photovoltaïque, l'isolation, tout ça c'est des nouvelles activités qui nécessitent une acquisition digitale importante. Donc on a été un peu les précurseurs pour faire venir les gens et les faire acheter. Le gaz naturel, l'électricité aussi nécessitait de faire de l'acquisition digitale. Donc c'est un peu différent à ce moment-là. C'est franchement un peu différent en termes de communication.
Ouais.
Voilà. On ne cherchait plus à faire de la communication ou de la recherche de notoriété, mais à faire de l'acquisition, avoir un vrai ROI sur l'investissement qu'on faisait.
Mmh. Voilà. Et du coup, vous avez fait ça en interne ou en externe, la communication au début?
On avait des partenaires pour apprendre un peu le métier.
Donc
on s'adresse à des agences. Et là, on a pu bénéficier de l'expertise des collègues qui ont lancé gaz naturel et électricité en même temps que nous. Ils avaient un fort background d'acquisition digitale.
D'accord.
Donc, ils nous ont bien aidés sur les techniques, l'investissement qu'il fallait mettre et également utiliser les agences qui avaient été aussi embarquées à ce moment-là.
D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que la création de cette activité a fait monter en compétence les équipes marketing, communication
Ah oui, il n'y a pas de problème. Et oui, maintenant, on a créé une équipe digitale dédiée, qui transverse. Qui va pouvoir travailler sur l'acquisition aussi sur les énergies historiques. On a vu que c'était incontournable, en fait, hein, la digitalisation, le marketing digital. Donc, ça a pu, effectivement, ça a accompagné la transition de l'entreprise dans ce domaine-là.
Ouais. Et le site de e-commerce, maintenant, vous l'avez fait développer à l'extérieur au début, c'est ça? Maintenant,
oui.
il est revenu soutenu et maintenu par vos équipes internes.
On a toujours besoin d'une agence de développeurs. On n'a pas forcément de développeurs en interne pour intervenir dessus. Mais on a capacité d'intervenir de façon légère pour modifier. Donc, on a appris des métiers comme le SEO, alors le référencement naturel, pour remonter le plus possible dans les requêtes.
Ouais.
Et des métiers, le SEA, alors le référencement payant, toutes les techniques. On a des gens, les traffic managers maintenant, qui sont capables de nous orienter, de nous aider sur la meilleure façon, au meilleur coût, de faire de l'acquisition.
Ouais.
Donc, on externalise toujours un peu certaines des activités, mais on a besoin d'avoir des gens en interne pour faire de l'acquisition. Pour faire de la stratégie, c'est en interne.
Ouais.
Et puis après...
Et puis pour piloter ces prestataires aussi qui donnent toutes ces briques.
Oui, voilà.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, le lancement de cette nouvelle activité, ça en est où maintenant? Ça a bien grandi? Est-ce que c'est un succès, entre guillemets, ou c'est encore vivotant? Est-ce que ça compte comme une ligne significative ou c'est...
Ça commence à être significatif. En termes de chiffre d'affaires, là, on n'est plus inexistant. Hein. On fait, après 3 ans, on est à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 30 000 clients, à peu près.
Ouais.
Donc, une bonne croissance. Dire que c'est un succès, c'est tôt, parce que on a réussi à fidéliser les clients, le truc tourne, hein, la machine tourne.
Ouais.
Maintenant, il y a énormément de réglages à faire pour que ce soit vraiment satisfaisant et qu'on puisse et que ça devienne un résultat significatif chez Butagaz, quoi.
D'accord, significatif en termes de marge plutôt ou
Oui, voilà, ce qui reste à la fin, oui.
Ouais.
Ouais. Et là, il y a plein de réglages à faire. On n'est pas au bout du chemin.
Ouais, ouais.
3 ans, c'est tôt. Voilà. Ah ouais, on a besoin encore de quelques temps pour.
Ouais. Après, la rentabilité, c'est un choix. Et effectivement, on peut décider de réinvestir les profits dans le business ou effectivement de faire rentable et peut-être compromettre la croissance, peut-être, dans ce cas-là. Mmh. Et d'accord, bah, c'est pas mal. Alors, c'est, dans 3 ans, c'est une belle histoire déjà. Je voulais voir. Toi, c'est comme des entrepreneurs, c'est leur idée qui pousse et qui arrive quelque part. Toi, ce n'était pas ton idée, on t'a demandé. Du coup, quel était le support que tu as eu? Et puis, d'un autre côté aussi, les comptes qu'on te demandait de rendre vis-à-vis de la hiérarchie ou de ceux qui t'ont donné ce mandat.
Oui, effectivement, c'est un peu différent l'entrepreneur qui amène son idée et qui essaie de la faire pousser, de convaincre déjà, ouais. Pour avoir un peu de financement, un peu de ressources, etc. Ouais. Nous, ouais, c'est vrai que moi, j'ai commencé sur une activité avec un peu plus de confort, hein, puisqu'elle était, c'était l'initiative du comité de direction. Elle est donc, mais l'avantage aussi, c'est que c'était vraiment supporté par le comité de direction. Ouais. Ça faisait partie de la stratégie, donc, avec des moyens au départ à disposition. Quoi. C'est néanmoins, on a des objectifs. Petit à petit, on rentre de plus en plus dans le moule de la gestion d'une activité à part entière de l'entreprise. Autant au début, on avait pas mal d'autonomie sur les choix, sur les décisions à prendre, l'offre, parce qu'on était encore en période de rodage ou de test. Ouais. Petit à petit, l'activité devenant significative. On nous demande de plus en plus de comptes, de respecter les objectifs, etc. Donc, ouais,
ouais. Et justement, les objectifs, c'était quoi les premiers objectifs que tu as eus? C'était de lancer l'activité dans les 6 mois ou de...
Non, on n'était pas court terme comme ça, étant donné que c'était une activité toute récente. J'ai la chance d'avoir un comité de direction qui laisse faire les choses, enfin qui laisse du temps au temps pour y arriver. Donc on n'était pas à 6 mois, t'en es où, etc. On savait qu'on était sur de la durée, sur du moyen terme. Et donc il y a quelques années où il fallait, on a quelques années pour prouver. Mmh. Voilà.
Donc tu avais un an de période ou un an et demi, je ne sais pas, de période où tu devais sortir quelque chose qui marche, quoi. C'est ça.
Voilà,
c'est
voilà, voilà. Ça, d'accord, voilà. C'était plus ça. Et en appuyant beaucoup sur la qualité de ce qu'on propose. On ne peut pas non plus, en distribuant quelque chose sous notre marque, même si elle est toute récente, cette activité-là, on ne pouvait pas faire quelque chose de mauvaise qualité, parce qu'on a une réputation, on a un niveau de service à proposer, à soutenir. Donc voilà, une des choses aussi qui était prépondérante, c'est d'apporter un service de qualité. On ne peut pas se permettre de faire un truc à moitié, quoi.
Oui, c'est ça. Donc il y avait la protection de la marque à travers la satisfaction client et la perception.
Il y a un niveau d'exigence qui était assez élevé, qui est toujours élevé.
Ouais. Voilà. Tu penses que ça t'a influé sur certains choix au début?
Oui, clairement. On pouvait pas faire du low cost. Ouais. On fait pas du low cost. Donc il fallait un niveau de prestation, de la livraison à domicile qui soit bien faite, donc du matériel, donc des investissements. Peut-être qu'en lançant une activité sans le support de Butagaz, quelqu'un tout seul peut se permettre d'avoir des niveaux de prestation peut-être un peu inférieurs.
D'accord.
On ne pouvait pas, nous, vis-à-vis de la marque. Ouais.
Et après, donc, ce support t'a aidé aussi pour peut-être ouvrir des portes vers, peut-être la culture, je ne sais pas, mais vers les collègues pour qu'ils te donnent un coup de main, etc. C'est le fait que ce soit soutenu demandé par le comité de direction, est-ce que ça t'a aidé, tu penses?
Alors oui, c'était assez naturel de demander le support des collègues plutôt que de faire l'acquisition de ressources spécialisées pour la logistique, etc. C'était naturel de s'adresser à l'informatique, c'était naturel de s'adresser à des collègues qui ont une certaine maîtrise, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, les camions, ça reste des camions. Planification, ça reste de la planification. Donc, on a déjà l'achat de produits, c'est aussi, on achète des tonnes de gaz depuis toujours, quoi. Ouais. Donc, c'était naturel de s'adresser, d'avoir un peu d'appui des collègues des autres services.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc on a bien grandi avec eux. Ils nous ont donné un bon coup de main, toujours, hein, d'ailleurs, toujours, de plus en plus, en fait. Et là où c'est un petit peu plus difficile que si on avait des ressources en propre pour nous dédiées, c'est qu'il faut jongler avec les priorités. Voilà. Ils étaient contents, nos collègues, contents de pouvoir changer un petit peu de domaine,
de projet,
de produits, ouais. Des nouveautés aussi. Et donc ils ont adhéré assez facilement. Maintenant, il y a des fois leur métier prend le dessus. Hein. Leur métier d'avant prend le dessus. Et il faut faire avec les priorités. Et donc, ouais. Des fois, avec un peu moins de ressources que ce qu'on voudrait.
Ouais. Ce que je trouve extraordinaire dans ton histoire, c'est que souvent, ceux qui arrivent à lancer des nouveaux business doivent s'isoler d'une certaine manière du reste du business et au contraire, ne pas utiliser les ressources, certaines ressources du business, parce que ça les ralentit. Des procédures qui, les achats font que, ou autres, ou l'informatique, des fois, font que, maintenant, mais ça, on ne peut pas. Mais toi, au contraire, tu as fait avec eux. Par exemple, pour l'informatique, avant d'aller chercher une agence qui te fait le site de e-commerce, est-ce que tu as demandé en interne et c'est eux qui t'ont recommandé le...
Oui, on a fait ça avec vraiment la patronne de l'informatique de l'époque, là, qui nous a aidé à choisir l'agence.
D'accord.
Parce qu'elle connaît mieux, disons, les systèmes de sécurité qu'il faut respecter, etc.
Tout à fait,
donc,
ouais.
Donc oui, on a dès le début embarqué certaines équipes, ouais, pour nous aider. Ouais. À faire ça dans les règles, quoi.
Ouais, ouais. Je ne sais pas si tu te rends compte de cette différence de ce qui s'est passé chez Butagaz, ce qui aurait pu se passer dans une autre boîte, et tu te dis c'est quoi les facteurs de succès au fait autour de la réussite de ton projet, de tout le support que tu as pu avoir de l'entreprise en interne, selon toi.
Ah oui, mais enfin, je connais ma chance, quoi. Hein. c'est clair que et que les collègues soient emballés par le projet, qui participent de bonnes vraiment avec volonté, motivation, etc. C'est une première chance. Qu'en plus ce soit appuyé par le patron, c'est aussi ça fait mieux passer les messages, hein, et ça, bon, c'est les facteurs de succès évidents. Évident. Maintenant, il y a des contreparties à ça, hein, comme je dis, peut-être une agilité moindre parce qu'il faut attendre que telle ou telle équipe soit disponible. Il faut respecter les procédures. Et de plus en plus, au début, comme je disais, on a un peu plus d'autonomie, mais là, il faut qu'on rentre vraiment dans le canevas sur certains sujets. Et donc, il y a les contraintes, mais il faut accepter ces contraintes parce que ça donne quand même des avantages importants, quoi.
Ouais. Mais qui n'a pas compromis le succès du projet. Et même, j'ai l'impression, en 6 mois, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de startups qui se disent... C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer un lancement dans les 6 mois. Et puis, bon, j'imagine l'appui de la direction, ça a donné un peu de financement aussi, qui a fait que vous avez pu aller plus vite sur certains points.
Ouais. Oui, clairement. Ouais. En communication, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de startups qui, au bout de 9 mois, peuvent se permettre de faire de la radio ou de la télé. Vous voyez, donc, ouais. Nous, dès la première année, l'été suivant, on a pu mettre en place une campagne radio. Donc là, effectivement, c'est une force de pouvoir profiter de ces moyens, quoi.
Ouais. Là, c'est marrant, j'aurais pas pensé ça comme mode de communication sur du digital, mais...
Alors, mais clairement, on a essayé, hein, mais c'est aussi ça a été possible parce que ça faisait parler de la marque aussi.
Oui, oui, c'est ça. Ouais.
Donc,
l'effet, c'était double.
Voilà, l'effet, ça montre aussi que Butagaz... se diversifie, ça accompagne le message de multi-énergéticien, quoi.
Ouais, ouais. Et dans cette expérience, est-ce que ça t'a fait grandir? Toi, comment ça t'a changé?
Est-ce que ça m'a fait changer? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Disons que c'était une évolution presque naturelle. Moi, je suis rentré chez Butagaz en mettant en place un service technique, en lançant l'accélérateur startup. Je suis dans cette continuité en fait de nouvelles activités.
Oui.
Maintenant, notre unité elle appartient à une direction, c'est nouveau business. On est en plein dedans, quoi. Donc finalement, c'est plus une évolution naturelle de mon parcours. Est-ce que ça m'a fait changer? J'ai appris plein de trucs. Ça, quand, en fait, tu gères tout seul. Enfin, tout seul, heureusement, j'ai une équipe, mais il faut s'occuper de tout, quoi. C'est, bon, là, c'est là où on retrouve un petit peu l'esprit start-up, où il faut savoir tout faire en même temps, et du commerce, et du marketing, et du digital, la com, de la logistique, etc., et de la relation client. Bon, il faut toucher à tout, et c'est super d'avoir pu profiter de cette opportunité-là pour développer des compétences en plus.
Ouais, ok. Ouais, tu étais déjà un petit peu dans le mode entrepreneurial déjà, et oui. Tu n'étais pas dans les opérations, et donc tu n'as pas eu forcément, pour toi c'était une continuité de ce que tu faisais avant, mais pouvoir l'appliquer vraiment concrètement à ton propre projet. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont chez Butagaz qui auraient voulu connaître le même succès que la tienne et qui finalement n'ont pas accroché parce que d'autres raisons? Je ne sais pas si tu as vu des collègues tenter aussi et ne pas arriver là où tu voulais aller.
En fait, comme on était un peu les précurseurs là, on a lancé d'autres activités. Il y a plus récemment, il y a depuis un an l'isolation, les panneaux photovoltaïques. Là, ils sont en période, c'est mes collègues qui font ça, ils sont en période d'apprentissage.
Oui.
C'est quand même aussi des activités assez récentes. Donc, ils n'ont pas fini de découvrir la façon dont faire développer le business comme nous, quoi. Donc, on a pas beaucoup de recul, mais au bout de 3 ans, voilà, on a appris des choses. Ouais. Donc, il faut le temps d'installer ces nouveaux services, ces nouvelles offres auprès des particuliers, des clients. Voilà, c'est long, il faut avoir un peu de patience pour prouver que ça marche.
Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui peut-être qui se lance comme ça ou dans sa boîte ou toi il y a 3 ans, quel conseil tu te donnerais?
Ouais, pas facile. Non, il faut voir quand on peut bénéficier de ces supports qu'on a chez Butagaz. Et de l'appui qu'on a, il faut voir grand, quoi. Il faut voir grand vite. En fait, il faut pouvoir déployer très rapidement et atteindre une taille critique rapidement, quoi. C'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut tester un peu au début, mais après, vite aller déployer, quoi.
Tu parles de tester un peu au début. Tu as testé des choses, tu as eu des mauvaises surprises ou des bonnes surprises en testant? Qu'est-ce que tu as testé exactement?
On teste des méthodes de livraison, vraiment les méthodes d'acquisition, on teste différents canaux. Voilà, c'est tous ces petits réglages-là qui sont compliqués, qui sont multifactoriels, qui peuvent dépendre de la météo, et de l'actualité. Enfin, voilà. Il y a pas mal d'aléas. C'est important de pouvoir quand même, même en ce moment, faire plein de petits tests pour affiner et être optimisé. Mais c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, on se remet en question, en fait. Donc, quand on parlait un peu du pilotage, on a effectivement, on rend des comptes, etc. Mais entre deux comités où on rend les comptes et on parle de stratégie, etc., il faut quand même sans arrêt se remettre en question. Parce que demain, ça peut s'arrêter, quoi. Il n'y a rien d'acquis.
Parce que la base de client peut disparaître ou peut changer de fournisseur, quelque chose comme ça.
Oui, voilà, ne serait-ce que ça. Dans la logistique, il y a plein de surprises. Enfin, faut être hyper réactif.
Il y a un point de vue qui dit que les gens qui sont bons pour démarrer des projets, des entreprises, des business, sont moins bons pour les faire tourner. Maintenant, tu arrives à une phase d'optimisation où il y a encore de la croissance à aller chercher. Mais est-ce que tu sens que c'est un petit peu moins fun qu'avant, ou est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais bien retourner, relancer un nouveau business, ou est-ce que tu te vois consolider celui-là et le structurer de manière opérationnelle?
Ouais, moi je suis prêt à relancer d'autres trucs, hein. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est des périodes de temps où c'est comme tu dis, c'est fun, et c'est enthousiasmant, excitant de démarrer quelque chose. Donc maintenant, il faut prouver que ce qui a été lancé est bon. Et j'aurais voilà, il faut quand même aller au bout de l'histoire, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. S'il y a un bout à l'histoire, quoi.
Ouais, s'il y a un bout à l'histoire.
Parce que là, t'as déjà fait un bon parcours.
Ouais, mais il y a encore plein de trucs à faire.
Ouais.
Encore plein de trucs à faire. Maintenant, s'il faut démarrer quelque chose demain, pas de problème.
Ouais. C'est combien de personnes maintenant cette activité?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y en a un petit peu partout. Il y a 5 personnes dédiées chez Buta. Après, on partage plein de ressources, comme j'ai dit, avec d'autres services. Et puis, on a une filiale aussi qui travaille, à qui on a confié la relation client, la planification. En tout, on peut compter entre 20 et 25 personnes qui travaillent sur le sujet.
D'accord, ok. Ouais, c'est significatif quand même. Mmh. Et en termes de positionnement sur le marché, vous êtes toujours le nouvel entrant, vous avez dépassé certains concurrents, j'imagine. Enfin, ça dépend des régions.
Oui, difficile à dire. Hein. Difficile à dire, parce qu'on n'a pas de notion de réelle part de marché. C'est compliqué de savoir. Maintenant, on sent qu'on a une certaine reconnaissance, même si on reste marginal hein, quand même pour l'instant sur le marché. Mais la force de la marque fait qu'on nous reconnaît, on nous connaît. Et y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que tout le monde nous connaisse en tant que distributeur de granulés. Ça, c'est clair.
Ouais.
Mais bon, c'est une première reconnaissance quand même.
Ouais. Bon, mais super, bah, ça en fait des histoires, des rebonds, des aventures là-dedans. Tu veux rajouter quelque chose que tu veux partager sur cette expérience que dont je ne t'ai pas parlé ou je ne t'ai pas demandé?
Juste si les personnes qui écoutent ont des opportunités de lancer des activités comme ça ou de plus dans le pur intrapreneuriat, c'est-à-dire porter ses idées et convaincre la direction de les lancer, c'est quand même une aventure extraordinaire, quoi. C'est super de pouvoir de façon assez confortable, mine de rien, de profiter des d'infrastructures, de support pour lancer de nouveaux business, quoi. Il faut le faire, voilà, faut pas hésiter.
Ouais, c'est vrai. Avec la sécurité de l'emploi quelque part et puis l'excitation de l'incertitude ou du pari qu'on peut prendre sur ce qu'on prend.
Mais exactement.
Ouais, super. Bah, merci David.
Merci.